Agoraskopie, le magazine culturel de la rédaction, proposé et présenté par Vicky Bérardi.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale d'Agoraskopie, présentée cette fois-ci par Annalena Dazinieras, accompagnée d'Arthur Prieur à la réalisation technique de cette émission.
Il y a près de 5 ans maintenant, nous le recevions déjà sur Agora Radio pour qu'il nous parle de sa traversée de l'Amérique du Sud à vélo. Aujourd'hui, et malgré le coronavirus qui fait tourner la France au ralenti, il continue à vivre de sa passion et à enchaîner les exploits sportifs. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore deviné, il s'agit d'Axel Carion, le fondateur de Biking Man. Aujourd'hui, il nous rejoint pour nous parler de son parcours, de sa passion pour le vélo, mais surtout de ses projets pour le futur. On le retrouve tout de suite, juste après une petite pause musicale.
Georgia, 27 years ago. Yes, I was. Somebody tell me, what else can I do? But my little girl has walked out on me. Mother, oh mother, mother, can you hear your little boy calling your name? Help right now, Lord.
Somebody come on and help me out here.
Bonjour Axel Carion, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus en détail de votre parcours jusqu'à aujourd'hui ?
Alors mon parcours, c'est assez simple. J'ai travaillé pendant 7 ans dans l'énergie solaire. Parallèlement à cette activité, j'ai découvert la passion du voyage à vélo et de l'exploration exactement en 2011. J'en ai fait mon métier depuis 2016.
Justement, d'où vous vient cette passion pour le vélo ?
Elle est venue d'une rencontre avec un ami en fait qui m'a un jour proposé d'aller traverser les Balkans, l'Europe de l'Est, à vélo alors que j'avais jamais touché un vélo de ma vie. Bah, grâce à cette rencontre, j'ai dit oui. J'ai accepté cette proposition un peu folle d'aller tenter de parcourir à l'époque 1200 km en 10 jours avec un vélo de voyage, une randonneuse, où je devais transporter ma cuisine, ma chambre à coucher, mes rechanges et ainsi de suite sur une très longue distance dans un territoire que je ne connaissais pas. Ça, c'était en 2011. Et ça m'a tellement marqué, cette expérience, que en fait, c'est devenu un rituel que j'ai répété chaque année avec des amis, jusqu'au jour où je suis parti faire une très grande traversée à l'échelle d'un continent en Amérique du Sud en 2015, où là, clairement, après cette traversée, j'ai décidé de changer de vie et de consacrer le reste de ma vie à ma passion du voyage à vélo, de l'exploration à bicyclette.
Justement, vous en parliez, en 2015, vous êtes parti avec deux amis faire du vélo à travers l'Amérique du Sud. Quel pays est-ce que vous avez vu pendant ce voyage ?
Alors cette traversée, on a suivi toute la cordillère des Andes en partant depuis la Colombie. On a traversé ensuite l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili et l'Argentine pour terminer à Ushuaia en terre de feu.
Quel souvenir est-ce que vous gardez de ce voyage ?
En avoir un seul, c'est tellement complexe. C'est 8 mois de ma vie ce voyage. C'est 13 500 km. Et plus de 60 nuits à dormir chez l'habitant. Donc c'est un peu compliqué d'arriver vraiment à ne citer qu'un seul souvenir, mais je dirais le plaisir qu'on a finalement très peu de fois dans sa vie de ne faire que de l'exploration et que chaque jour soit différent. Chaque jour, une redécouverte. Je dirais que c'est ça mon plus beau souvenir. C'est de chaque matin me lever en me disant que je vais découvrir quelque chose de nouveau, que je vais aller sur des territoires inconnus et que je vais rencontrer des gens également inconnu et que ça va être une expérience formidable. Ce renouveau permanent, c'est vraiment le souvenir pour moi le plus marquant de cette traversée.
Vous le disiez tout à l'heure, vous avez entre guillemets tout quitté pour vous consacrer pleinement à cette passion et en faire votre métier. Pourquoi vous avez décidé en fait de vous consacrer à cette passion ?
Parce que je pense qu'à un moment donné, chacun, chacune dans notre vie, on a cette opportunité de se poser la question, de se dire j'ai une passion, est-ce que je prends le risque finalement de la poursuivre ? Et on a toujours ce dilemme, vie de passion, vie de raison. Et je l'ai vécu moi-même en 2014, et par l'intermédiaire de plein de recommandations et surtout d'inspirations que j'ai recherchées dans les livres, à travers des blogs, des sites internet et des échanges avec plein de personnes, je me suis rendu compte que finalement, je n'étais pas le seul et qu'il y avait plein de gens qui avaient ce dilemme-là. Et j'ai pris le risque. J'ai sauté, entre guillemets. J'ai pris le risque, j'ai osé changer de vie. Puisque ce voyage en 2015, ce n'était pas juste une année sabbatique où je partais pour retourner dans ma vie d'avant. Vraiment, j'ai tout quitté à ce moment-là, en laissant quelque part derrière moi la vie professionnelle que j'avais, pour laisser libre cours finalement à l'inconnu.
Comment vous gagnez votre vie à travers cette passion ?
Alors, ça met beaucoup de temps, et aujourd'hui encore, c'est complexe. Une vie de passion, c'est beaucoup de sacrifices. C'est aussi une conception de la vie qui doit être différente de celle que l'on connaît lorsqu'on est dans un travail, entre guillemets, alimentaire, où on travaille pour gagner sa vie. Là, aujourd'hui, moi, je travaille pour continuer de mener ma passion. Et je le divise, en fait, en deux grandes actions. La première, c'est l'organisation de courses à vélo, qui me permet de pouvoir rassembler des gens du monde entier sur des territoires exceptionnels en matière de beauté, de rencontres culturelles. Ça, c'est la première de mes activités. Et la deuxième, c'est en continuant de faire des explorations individuelles, d'aller à la rencontre de territoires inconnus et de peuples reculés, où je suis dans de la production de contenu pour des marques ou pour des documentaires en télévision. Ça, c'est mes deux grandes activités.
Justement, vous êtes aussi le fondateur de Biking Man. De quoi s'agit-il exactement ?
Biking Man, c'est simplement le partage de cette expérience que j'ai vécue en 2015, où clairement, c'est là où j'ai commencé à changer ma vie, de l'exploration à vélo dans des territoires engagés pour aller à la rencontre de cultures exceptionnelles. Avec un format, avec un filet de sécurité, avec une organisation qui permet à des personnes de tout horizon, femmes et hommes, et de tout background sportif, de pouvoir se lancer dans une aventure ultra, entre guillemets, et parcourir des très longues distances à vélo dans des territoires magiques. Donc j'organise ces courses depuis maintenant 2017, avec 13 événements organisés.
Ces courses d'exploration, justement, comme vous les appelez, sont sans assistance. Est-ce que ce n'est pas dangereux ?
C'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement risqué, bien sûr. Et c'est le principe, quelque part, du Biking Man, c'est que je pense qu'à un moment donné, pour pouvoir engager ce type de changement de vie, dont beaucoup de gens aujourd'hui ont envie, ou sont en quête en tout cas, il faut prendre des risques. Et quelque part, Biking Man, c'est prendre des risques, entre guillemets mesurés, puisqu'il y a une organisation où moi je fournis quand même beaucoup d'informations sur le terrain, d'informations sur les routes, comment se préparer, à quel équipement transporter. Les athlètes sont suivis également avec des traceurs GPS, mais il y a quand même bien sûr une activité dangereuse qui consiste à prendre un vélo, avoir la possibilité de rester en équilibre sur des distances qui vont de 800 à 1600 km en autonomie complète pour se ravitailler, dormir, pédaler jour et nuit. Donc bien sûr, c'est une activité dangereuse, mais j'en suis heureux en tout cas d'être le promoteur, parce que c'est cette notion de danger et de risque, encore plus aujourd'hui avec le coronavirus, je pense que ça a besoin également qu'on les gens de prendre des risques et de faire face aux dangers pour se prouver quelque part qu'ils sont en vie.
Justement, pour parler un peu du coronavirus, la saison 2020 de votre compétition a déjà été lancée dans le désert d'Oman et elle devrait se poursuivre en septembre au Portugal puis en Corse. Est-ce que cela va pouvoir se faire malgré le coronavirus ?
Pour l'instant, c'est encore compliqué d'arriver à donner une réponse certaine, puisque, bah, comme vous l'imaginez, je pense qu'on est tous frappés, quelles que soient nos activités, par ce qui est en train de se dérouler en termes de changement géopolitique mondial. J'espère, et je suis confiant là-dessus, que ça pourra se dérouler, parce que si une épreuve sportive où des personnes pédalent en solitaire sur des grandes distances pour traverser des territoires en respectant les échelles nationales, si ça, ça peut pas se réaliser, je serais triste de ce que ça impliquerait pour beaucoup d'activités annexes. Ça voudrait dire que plein d'autres événements peuvent pas avoir lieu, que plein d'autres rassemblements ne peuvent pas se tenir. J'en serais attristé. J'ai bon espoir que ça peut s'organiser et se maintenir pour fin septembre et fin octobre.
Vous êtes aussi depuis 2017 ambassadeur de l'ONG Pompiers sans frontières. Pourquoi vous avez décidé d'endosser ce rôle ?
Pompiers sans frontières, c'est comme beaucoup de choses dans ma vie, c'est basé en fait sur une rencontre. C'est-à-dire que en 2015, quand je suis allé traverser l'Amérique du Sud, et après en 2017, je suis retourné pour retraverser le continent à vélo, il y a une chose qui m'avait marqué à l'époque, c'est l'accueil qu'on avait reçu dans les casernes de pompiers sud-américaines. C'est comme un rituel, c'est un code que connaissent la majorité des gens qui voyagent à vélo en Amérique du Sud spécifiquement. Les pompiers, les bomberos, là-bas, ont une coutume d'accueillir en règle générale, tous les voyageurs, que ce soit des vagabonds à pied ou des voyageurs à vélo, des explorateurs et exploratrices, ils accueillent dans les casernes. Et à l'époque, j'ai dormi de nombreuses nuits accueillies par les pompiers sud-américains. Bah, quelque part, en rentrant, je me suis dit comment est-ce que je peux essayer de, à ma toute petite échelle, renvoyer l'ascenseur à ces gens qui ont fait preuve d'une générosité à mon égard, qui était géniale. Et c'est comme ça que j'ai été amené à rencontrer Serge Montesino, qui est le fondateur de l'ONG, et qui d'ailleurs a fondé l'ONG Pompiers sans frontières après un voyage de mémoire en 91 au Pérou, et qui lui-même passionné par l'Amérique du Sud, la manière dont vivent ces peuples andins notamment. Et voilà, la connexion s'est faite à ce moment-là, et en discutant avec Serge, je me suis dit, bah, pourquoi pas t'aider à faire connaître ce que tu fais, parce que je trouve que son action d'aller aider les pompiers, certes du monde entier, mais en plus d'avoir un ancrage sud-américain, ben c'était une histoire qui nous unit, et je trouve que c'est important de pouvoir faire la promotion de ce type d'action, surtout en sachant que ben, les pompiers sud-américains, en l'occurrence, sont tous des volontaires. C'est un cadre très particulier de travail pour les pompiers là-bas, et c'est vraiment des gens qui ont besoin de coups de main, quoi. Donc tout ce qui peut aider, ben, j'essaie de le faire à ma petite échelle.
Quelles sont vos responsabilités en tant qu'ambassadeur de cette ONG ?
C'est concrètement en parler, comme on est en train de le faire aujourd'hui à l'antenne, pouvoir faire connaître finalement le nom de l'ONG Pompiers Sans Frontières pour que les gens puissent se renseigner, voir que ça existe, qu'il y a une histoire qui est belle, qui est ancrée avec des valeurs humaines et que les pompiers sont des gens qui ont besoin d'aide à la fois en Amérique du Sud mais partout dans le monde pour les actions qu'ils mènent et le soutien qu'ils ont auprès des communautés. C'est principalement ça, faire connaître l'ONG et diffuser le message comme quoi elle existe et qu'elle a besoin de soutien.
En février 2020, vous avez établi le record du monde de la traversée du Jordan Bike Trail. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus par rapport à cette traversée ?
Alors, cette traversée de la Jordanie du nord au sud, c'est un parcours de 730 km qui suit l'ancien chemin des caravaniers et qui est une parallèle à la route des rois, qui est une route un peu de légende en Jordanie. Cette expédition, elle s'inscrit dans un programme que j'avais... Je parle au passé puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été bloquées avec le coronavirus. Mais c'est un programme d'expédition que j'ai qui consiste à aller rencontrer, visiter les cultures séculaires et reculées du monde pour pouvoir raconter l'histoire de l'approche de ces gens à vélo. Alors il y a la notion du record du monde, parce que c'est une notion de vitesse que j'aime avoir sur mes expéditions. Mais il faut quand même imaginer que... Sur la Jordanie, cette expédition, j'ai pédalé pendant 120 heures quasiment sans dormir, avec une multitude de contacts qui ont pu se réaliser sur le parcours avec le peuple jordanien. J'ai en souvenir des accueils qu'on a reçus, parce qu'on était deux. J'étais avec un ami aventurier allemand qui s'appelle Jonas Leichmann. On a été accueillis plusieurs fois dans des conditions climatiques assez, assez rocambolesques. Ce n'était pas forcément la meilleure période pour y aller. Dans des mairies, dans des garages, pour pouvoir sécher nos habits. Enfin, ça a été vraiment, en l'espace finalement de 120 heures, un condensé d'exploration et de rencontres assez inédit. Bah, cette expédition, elle s'inscrit dans un programme que j'ai d'aller à la rencontre de ces cultures pour pouvoir finalement écrire, parce que je partage des récits sur mon site internet, mais également avec des canaux de presse français ou anglophones, pour raconter cette histoire qui me fascine de l'approche à vélo. Arriver à vélo en fait, dans des territoires, de parcourir des longues distances et finalement d'avoir en miroir les réactions des cultures visitées en échangeant avec elles pour finalement raconter l'histoire de la rencontre humaine tout simplement.
Combien de temps est-ce que vous êtes resté en Jordanie ?
Au total, 10 jours entre l'expédition et le temps avant et après la fin de cette expédition.
Pour en revenir maintenant encore au coronavirus, est-ce que vous avez en tant que sportif souffert de ce confinement forcé ?
Il y a deux aspects. Le premier aspect qui est positif, c'est que j'ai l'habitude moi, de travailler en télétravail maintenant depuis 2016 et que c'est mon quotidien. Dès lors que j'ai mon ordinateur, je peux travailler quasiment partout dans le monde. Donc là-dessus, je dirais que j'ai pas été directement impacté, contrairement à beaucoup de gens qui ont dû changer beaucoup de leurs habitudes pour arriver à continuer de travailler. Le côté négatif, c'est clair que de rester comme ça, complètement cloisonné et surtout avec toute la partie répressive. Moi, c'est ça qui m'a le plus surpris, c'est toute la répression qui a été mise en œuvre à la fois avec le système d'attestation, pour pouvoir sortir, faire ses courses et ainsi de suite. J'ai trouvé ça inédit parce que j'ai jamais connu de temps de guerre avec mon jeune âge, par chance. Mais en tout cas, c'est la première fois que je vis des contraintes sur les déplacements et je pense que ça peut profondément changer la mentalité de beaucoup de gens. Moi, j'ai la chance de passer beaucoup de temps sur les routes à vélo. J'étais toujours dans l'espoir, à la fin du confinement, de pouvoir sortir. Mais je m'inquiète surtout de l'impact que ça peut avoir sur des gens qui n'ont pas eu l'habitude, finalement, de se mettre dans des conditions d'adaptation, de faire face en permanence à des situations inédites. Moi, c'est mon métier aujourd'hui. C'est ce que je fais depuis ma première expédition en 2011 à aujourd'hui. J'ai parcouru des territoires absolument incroyables dans des conditions dantesques. Donc, j'ai l'habitude de m'adapter en permanence à des situations un peu ubuesques et de danger permanent. Mais ce qui m'inquiète, c'est l'impact que ça peut avoir sur des gens normaux, tout ça. Le fait d'être confiné à la maison et de ne pas avoir le droit de sortir, je pense que l'impact va se mesurer finalement dans le temps. Mais je ne pense pas que ce soit de toute manière positif.
Est-ce que vous avez pu faire un peu de vélo quand même pendant le confinement ?
J'ai pu continuer de m'entraîner en faisant du home trainer, du vélo sur place à la maison, et également en respectant la limite du kilomètre autour du domicile pour aller courir. Donc là-dessus, ouais, il n'y a pas de problème, j'ai pu maintenir une condition physique pour la suite du programme.
Justement, pour la suite, quels sont vos projets pour le futur maintenant que nous sommes déconfinés et qu'on peut ressortir à nouveau ?
Bah déjà, c'est de pouvoir sortir le vélo. Donc ça, j'ai commencé à faire des grandes traversées à l'échelle départementale en respectant la limite des 100 km, hein, parce qu'on est déconfiné, mais quand même dans un périmètre qui est assez limité. Je travaille déjà à redécouvrir finalement le voisinage et tout ce qu'il y a autour de la superbe région dans laquelle on vit, parce que les Alpes-Maritimes, c'est un endroit magique. Moi, c'est là où j'ai passé beaucoup d'heures sur mon vélo à explorer les villages de la côte, de la RPI et du parc des Préalpes d'Azur. C'est l'occasion aussi de redécouvrir un territoire qui est juste à côté de la maison. Donc, je passe en ce moment pas mal de temps à redécouvrir ce territoire, et puis dès lors que les autorisations seront finalement données, j'espère que ça va bientôt intervenir, pouvoir aller un peu plus loin, et là, ça sera l'occasion d'aller un petit peu plus loin.
Est-ce que vous avez d'autres voyages de prévus dans les mois à venir ?
Alors, j'ai plein de rêves. J'ai plein de destinations sur lesquelles j'aimerais rendre pour les explorer à vélo. Mais actuellement, encore une fois, je pense que le coronavirus a un impact qui est unilatéral et transversal. C'est le monde entier qui est touché, donc c'est un peu compliqué et à la fois, je pense, hors de propos aujourd'hui de pouvoir discuter d'aller explorer l'Himalaya en vélo. Actuellement, tout le monde est paralysé. Il y a une économie qui est à terre, avec un futur proche qui va être assez compliqué pour beaucoup de gens. Donc, j'ai beaucoup de rêves, mais actuellement, je les garde en rêve. Je travaille sur des réalités, sur ce qui peut se faire à proximité de la maison, tout en gardant la possibilité de rester dans un renouvellement permanent de l'enchantement qu'on peut avoir à pédaler à proximité de chez soi et redécouvrir sa propre région. C'est ce que je compte faire, en tout cas, dans les prochains mois pour l'instant. Avant, j'espère de pouvoir évoquer des explorations de cultures reculées et de milieux engagés.
Comment est-ce que vous alliez votre vie professionnelle et votre passion avec votre vie familiale, étant donné que vous êtes souvent parti pendant plusieurs mois pour des voyages ?
C'est très compliqué parce que je passe peu de temps sur la France, mais j'ai la chance d'avoir une compagne qui est compréhensible là-dessus et qui me soutient dans tout ce que je fais. Donc, c'est un des piliers qui est quelque part dans l'ombre et qui travaille à soutenir ce que je fais. Et je pense que c'est extrêmement important, au même titre que ma famille. Moi, je fais partie d'une famille nombreuse. J'ai 13 neveux et nièces aujourd'hui, avec 3 frères et 3 sœurs. Et c'est toutes des personnes qui me soutiennent au quotidien dans ce que je fais. Et je reviens sur la dualité vie de passion, vie de raison. La vie de passion, ça fait rêver beaucoup de gens. Mais c'est des sacrifices également. C'est des engagements à prendre qui sont parfois un peu en opposition avec les codes actuels de la famille, et ainsi de suite. Moi, c'est des sacrifices que j'ai été prêt à prendre déjà il y a quelques années, et ravi et heureux de la vie que je mène aujourd'hui, parce que je suis soutenu à la fois d'un point de vue privé et familial, et également d'un point de vue sentimental avec une compagne. Je dirais que j'ai tous les feux ouverts pour continuer de vivre ma passion, mais c'est un très grand challenge d'arriver à avoir ce type de pilier.
Très bien, merci d'avoir pris le temps de nous parler.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.